7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, car c'est bien d'elles dont nous allons parler aujourd'hui, les femmes migrantes. Elles sont de plus en plus nombreuses sur les routes de l'exil, mais aussi sur les routes de la migration économique. Seules ou en famille, sont-elles plus vulnérables que les hommes? Quelles sont les mesures prises pour les protéger des dangers liés à leurs conditions de femmes? Bref, les femmes migrantes sont-elles finalement condamnées à une double peine? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Jen Friedman, qui est sociologue, spécialiste des migrations, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à l'université Paris 8 et vous avez notamment mené une enquête l'été dernier sur l'île de Kos en Grèce sur les femmes migrantes. Violaine Husson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée des questions femmes migrantes à la CIMAD. La CIMAD, c'est l'association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. C'est une association que vous connaissez bien. Mathalie Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes adressée à la CIMAD pour avoir de l'aide quand vous êtes arrivée en France, c'est
oui.
bien ça.
Oui.
Vous êtes ivoirienne et vous avez été victime d'un mariage forcé en Côte d'Ivoire et vous avez fait une demande d'asile auprès de l'OFPRA,
oui.
qui est l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Et bien sûr, quant à vous, les voisins, les voisines, vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir ou questionner nos invités sur les femmes migrantes, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission, nous parlerons des mariages précoces. L'UNICEF vient de rendre publique une enquête. L'Afrique est en train de devenir le premier continent concerné par le problème des mariages précoces. Nous verrons pourquoi. Voilà. Je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages qui sont postés sur nos réseaux sociaux, principalement la page Facebook. Vous pouvez bien sûr réagir. Béchir, qui a 22 ans, qui est à N'Djamena, au Tchad, il nous dit « Je vois chez moi que les femmes sont handicapées par leur situation quand leur pays est en crise. Elles sont encore plus atteintes que les hommes dans des pays comme le Nigeria, comme le Tchad, comme la République centrafricaine. Il nous faut la paix. Les différentes ONG, surtout l'Organisation internationale pour les migrations, doivent prendre en charge les femmes et les handicapés qui se retrouvent sur la route des migrants. Aliou est à Kaï, au Mali. Si les femmes quittent leur pays, c'est à cause de la guerre et non parce que leur pays est pauvre. Vrai ou faux, d'ailleurs, Jen Friedman?
Bon, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour que les femmes quittent leur pays. Mais c'est vrai que dans les conflits, on voit qu'il y a des problèmes spécifiques pour les femmes. Notamment, on voit, par exemple, les violences sexuelles, les violences liées aux gens qui peuvent être exercées, bon, qui existent déjà, mais qui peuvent être exacerbées par les crises et les conflits. Donc, on peut pas dire qu'il y a une raison pour que les femmes quittent leur pays, mais il y a plusieurs raisons. Mais je pense que c'est vrai que dans les conflits, les femmes vont être touchées dans des façons spécifiques et que ça peut aussi mener à l'exil.
Abbas nous envoie ce message-là, il est à Niamey, au Niger. La violence est partout, la pauvreté aussi. Je ne vois donc pas ce qui pousse les migrants à quitter leur pays. Lorsque vous quittez votre pays, vous l'abandonnez. Mathalie, qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire?
En fait, quand on fuit notre pays, c'est pour venir retrouver un avenir meilleur quelque part, tourner la page, avoir une nouvelle page dans notre vie, c'est pour cela qu'on fuit notre pays. C'est pas parce que on a des difficultés, on a vécu des difficultés dans notre pays qu'on fuit notre pays.
Est-ce que vous vous êtes sentie jugée aussi parfois par vos compatriotes en Côte d'Ivoire quand vous avez décidé de quitter la Côte d'Ivoire?
Non.
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 Pas du tout. Vous nous appelez en tout cas les voisins et les voisines. On parle aujourd'hui des femmes migrantes. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tous les mondes.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Violaine Husson, vous appartenez à la CIMAD, une association qui vient en aide aux, en principe, et notamment aux demandeurs d'asile. Depuis les attentats de Paris et de Saint-Denis, est-ce que la situation, vous avez le sentiment qu'elle s'est dégradée pour les femmes migrantes ou pas spécialement?
On n'a pas suffisamment de recul là en 15 jours pour pouvoir dire si oui ou non la situation s'est dégradée. Il n'empêche qu'il y a quand même une suspicion assez généralisée par rapport aux personnes étrangères. On le voit notamment avec des propositions et des propos dans les discours en parlant de déchéance de la nationalité, en développant les contrôles aux frontières, etc. Ne faisons pas l'amalgame entre les terroristes et les personnes étrangères qui viennent migrer pour différentes raisons. Pour pouvoir étudier, pour pouvoir venir travailler, pour chercher un avenir meilleur, comme le disait Nathalie, mais également parce que pour des questions de survie, lorsque dans leur pays, il leur est impossible de rester plus longtemps. Donc du coup, les parcours migratoires sont très variés. Et effectivement, être une personne étrangère à l'heure actuelle en Europe est loin d'être facile.
Ouais, acte de défiance contre les réfugiés syriens, évidemment, depuis le 13 novembre dernier. Certains membres du commando de djihadistes seraient glissés dans le flux de migrants pour entrer en Europe. Donc ça a été, c'est vrai, très exploité politiquement pour semer aussi le doute sur la politique d'accueil. Mais est-ce que ce doute-là, il touche aussi les femmes? C'est la question.
Sans doute, tout en gardant en tête quand même qu'il y a énormément de situations de vulnérabilité, comme le disait tout à l'heure Jane Friedman, et que les femmes sont souvent dans des situations où elles vivent des persécutions spécifiques parce que femmes. Après, dans des situations comme ce qu'on vit à l'heure actuelle, les amalgames sont faciles et qu'on ne fait pas forcément tout le temps de
terroristes.
Oui, exactement.
Jane Friedman.
Oui, je pense que en fait, l'amalgame entre le terrorisme et les étrangers, c'est trop facile à faire. Il faut pas le faire. Mais pour beaucoup d'Européens, des États, c'est une excuse aussi, parce qu'on a vu que même avant les attentats, ce qui s'est passé le 13 novembre, il y avait une grande suspicion des migrants, des réfugiés qui arrivaient en Europe. Il y avait beaucoup de pays qui étaient pas vraiment prêts à accepter ces gens-là et faciliter leur passage. Donc, on veut pas qu'en fait les chefs d'État, les hommes politiques peuvent utiliser ce qui s'est passé le 13 novembre comme une excuse pour encore renforcer les barrières, les obstacles pour ces gens qui viennent en Europe pour des raisons très différentes, mais il y en a beaucoup d'entre eux. Bon, en fait, le choix de migrer, c'est très difficile. Donc, les gens, ils viennent pas facilement. Ils viennent quand ils ont souvent pas d'autre choix. Et ces gens-là sont désespérés. Donc, on peut pas juste fermer les frontières en disant c'est des terroristes.
Alors, justement, la proportion de femmes est-elle vraiment en augmentation parmi les flots de réfugiés là ces derniers mois?
Quand on parle des réfugiés qui arrivent par exemple en Grèce, oui, on voit que selon les chiffres du HCR et des autorités, bon, il y en a pas des chiffres exacts parce que c'est difficile à dire, mais on voit de plus en plus des femmes et de plus en plus des femmes qui arrivent seules ou seules avec les enfants.
Elles constitueraient quoi? En gros, un quart des nouveaux arrivants, c'est ça, voire un peu moins?
Peut-être 20%
maintenant.
C'était
pas le cas autrefois. C'est-à-dire, il y a encore quelques années, les hommes arrivaient principalement seuls.
Dans les arrivées par bateau, par la mer, avant, il y a, bon, ça, en fait, c'est pas un phénomène nouveau, les arrivées par la mer.
Non.
C'est, maintenant, ça a augmenté les chiffres. Mais avant, c'était plutôt les hommes qui prenaient cette route-là, parce que on sait que c'est très dangereux. Et surtout, pour les femmes qui ont des enfants, de risquer la vie des enfants dans les bateaux, c'est pas facile. Mais on voit maintenant qu'il y a de plus en plus des femmes qui arrivent par ces routes-là en Europe. Et aussi, il y a eu une augmentation petit à petit des nombre de femmes qui demandent l'asile en France. Avant, je pense que maintenant, Violaine peut confirmer, c'est autour de 30% le nombre de demandes d'asile qui sont des femmes en France. Donc, et là, pour des raisons bon, encore variées, mais qui comprend aussi les persécutions spécifiques.
36% de femmes sur les 66 000 demandes d'asile en 2014, c'était des femmes, c'est bien ça.
Voilà,
elles sont un peu plus nombreuses que les hommes, d'ailleurs, à obtenir l'asile. Légèrement.
Oui, c'est très légèrement.
Ouais. Les femmes aujourd'hui, plus les routes de la migration sont compliquées, plus elles sont dangereuses, et en même temps, plus il y a de femmes, donc évidemment, ces violences-là se répercutent sur ces femmes, sur ces routes de l'exil.
Oui, en fait, les femmes, bon, tous les migrants, les réfugiés sont vulnérables parce que les routes sont de plus en plus dangereuses. Maintenant, par exemple, ils ont fermé la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie. Donc, les gens, ils sont obligés à prendre des bateaux. Ils sont obligés d'utiliser les passeurs pour venir. Donc, tout ça met des problèmes, des barrières et qui fait que les routes sont dangereuses. Pour les femmes, il y a des problèmes spécifiques parce que, par exemple, elles peuvent être victimes des violences sexuelles, des violences basées sur le genre.
De qui essentiellement? Qu'est-ce qu'on observe dans la réalité?
De ouais. Tout le monde. En fait, j'ai rencontré des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles par la police et les autorités la police dans différents pays. Par exemple, en Turquie, j'ai rencontré une femme qui a été victime de violences. Aussi, les passeurs, ça peut être des violences, mais ça aussi peut être un échange sexuel.
Faveur sexuelle monnayée pour passer. Quand
oui,
on
pour
a
passer
pas
les femmes qui n'ont pas assez d'argent, les passeurs vont dire, bon, vous allez donner des rapports sexuels. Donc, il y a tout cela. Il y a aussi des problèmes d'insécurité et des violences des autres réfugiés, d'autres migrants, parce que les femmes, elles sont toujours minoritaires. Il n'y a pas des conditions d'accueil qui sont sécures pour les femmes. Elles dorment dehors, par terre, elles dorment dans des... Donc, elles sont aussi, elles se sentent en insécurité et peuvent être victimes de violences de la part des autres migrants. Donc, les violences, ça vient un peu de partout.
La parole des femmes migrantes est plus rare, hein, on le dit beaucoup. Donc, les hommes, elles se confient moins, elles racontent moins leur parcours.
Ah, c'est surtout que la situation des femmes migrantes reste relativement invisible, qu'elles représentent de manière générale la moitié de la population migrante mondiale, qu'en fait,
toute migration confondue, migration économique, etc.
Tout à fait. Mmh. Et qu'on s'est très peu intéressé à la situation des migrations féminines qui existent depuis déjà plusieurs décennies.
Vous avez l'impression, vous, Matali Koulibaly, vous qui avez quitté la Côte d'Ivoire il y a presque 2 ans maintenant, c'est plus difficile quand on est une femme de raconter son parcours, de raconter pourquoi on est parti?
Oui, on ressent un peu de honte, en fait, étant femme. Les violences qu'on a vécues, ça nous rend un peu triste, en fait. Donc, on a honte de le raconter.
Ouais, vous allez nous raconter néanmoins votre parcours, nous expliquer pourquoi vous faites une demande d'asile auprès de l'OFPRA en France. Et quant à vous, les voisins et les voisines qui nous écoutez, on parle des femmes migrantes aujourd'hui. Toutes vos interrogations, vos témoignages, vos réactions sont les bienvenues au 33 1 84 22 71 71.
Najiviwa uniburudishe ziungu Kula siku napambubwe hutsoka karibu name Taradudie ninjia univavuzo kabili O maisha yangu kamili hutsoka karibu nami Kuzanunda watu zitendelea haizo Baisheke sosiete yambatisha watangamia Baisheke maisha yangu na weti nyangwe Uniwangusa, univenua, univara Ati uregeti uvara Waheri wa daimae Karibu nirenge bale ondo msiuso Muzika wangu, muzika wangu, muzika wangu Najiviwa uniburudishe ziungu Kula siku napambubwe hutsoka karibu nami Taradudie ninjia univavuzo kabili O maisha yangu kamili hutsoka karibu nami Kuzanunda watu zitendelea haizo Baisheke sosiete ambatisha watangamia Baisheke maisha yangu na wezi nyangwe Uniwagusa, univenua, univara Tiuregeti ubara Waheri wa daima
Musica chez 7 milliards de voisins sur RFI. Vous écoutez 7 milliards du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous nous préoccupons du sort des femmes migrantes. Elles sont de plus en plus nombreuses sur les routes de l'exil, alors qu'il s'agisse de migration économique ou de migration due à des situations de conflit ou de conflit d'atteinte aux femmes, notamment de violences faites aux femmes. Nous en parlons. Nathalie Koulibaly, vous avez décidé de venir dans le studio des 7 milliards de voisins. D'ailleurs, pourquoi vous avez décidé de venir parler de votre situation? Pourquoi ça vous semblait important?
Pour montrer au monde entier que la situation que les femmes vivent, le mariage forcé, existe bel et bien. Donc, c'était pour dénoncer un peu ces pratiques qui continuent toujours dans notre pays.
Alors, votre pays, c'est la Côte d'Ivoire.
Oui.
C'est pas un pays qui est spécialement montré du doigt, d'ailleurs. Hein. Ça, vous pourriez venir d'un tout autre pays, du continent africain, voire même d'un autre continent. Il se trouve que vous êtes dans notre studio parce que vous parlez français. Nathalie, vous êtes née en Côte d'Ivoire il y a combien d'années?
Je suis née le 25 septembre 1986.
Oui.
À Abidjan. Mmh.
Quelle a été votre histoire, votre parcours pour que vous arriviez ici en France?
Il y a 2 ans de cela, j'ai été forcée à épouser un homme que je n'aimais pas, par mon père, mes oncles. Je suis d'une famille musulmane, très pudique, qui continue toujours les pratiques ancestrales, je dirais. Et ce soi-disant mari, au fil des temps, a commencé à être violent avec moi, parce que je refusais de coucher avec lui. Et ces violences-là s'avéraient toujours parce que, arrivé à un certain moment, ces violences, ça se sont avérées où il me disait que, en couchant avec moi, il ne me sentait pas femme. Donc, il fallait que je sois excisée.
Et vous n'aviez pas été excisée dans votre enfance,
non.
Hein?
J'ai pas été excisée, ma petite sœur et moi. J'ai 5 sœurs et il y a 4 sœurs qui ont été excisées.
Oui.
Et c'est ma petite sœur, je suis l'avant-dernière. Et ma petite sœur, la 6e, c'est nous deux qui n'avons pas été excisées.
Donc, non seulement, finalement, votre mari a eu des relations sexuelles avec vous contre votre gré, donc ça s'appelle...
En fait, je refusais de coucher avec lui parce que je ne l'aimais pas. Donc, il me brutalisait, il me violait.
Et il vous a menacé, finalement, de vous exciser.
Oui, parce qu'il ne me sentait pas femme quand il faisait l'amour avec moi. Il disait que j'étais sale.
Et quand vous dites que vous avez grandi avec des pratiques ancestrales et que vous avez été mariée aussi au nom de ces pratiques ancestrales, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Nathalie?
Mes parents, en fait, mes 4 sœurs ont été mariées forcément par leur propre gré.
Elles n'ont pas choisi leur mari.
Elles n'ont pas choisi leur mari. Leur mari ont été choisis par mon père et mes oncles. C'est pour cela que je dis ça. Ils continuent. L'excision existe bel et bien toujours dans ma famille.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez voulu vous rebeller, dire non?
Quand j'étais petite, j'ai voulu être excisée aussi. Et j'ai été sauvée par ma mère parce que l'une de mes soeurs a été victime de cette pratique-là. Et elle a beaucoup saigné, mais ma mère, du coup, a voulu ne plus que cela se repère sur ses deux autres enfants qui n'avaient pas été excisés.
En Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez porté plainte en justice concernant les violences que vous aviez subies par votre mari?
Oui.
Qu'a fait la justice?
En fait, quand on part au commissariat, on a peur de rencontrer quelqu'un qui ne vous comprenne pas, en fait. Et j'ai porté plainte, je suis allée porter plainte au commissariat. Et ils ont rempli le PV, ils ont convoqué mon mari. Et quand il est revenu à la maison, il m'a frappé encore, disant que lui connaissait du monde, il a des relations, et que si j'allais encore porter plainte, il allait encore me porter main.
À quel moment vous avez décidé de quitter la Côte d'Ivoire, d'arriver en France?
En fait, lorsqu'il répétait tout le temps qu'il allait me faire exciser, et que l'une de mes rivales l'a confirmé, elle m'a dit qu'elle était mariée très jeune avec lui, parce qu'il avait 2 femmes, j'étais la 3e. Elle disait qu'il ne rigolait pas, qu'elle a été mariée avec lui très très jeune. Et elle a été excisée grâce à lui.
Aujourd'hui,
dans son village.
Vous êtes en France depuis 1 an et demi à peu près. Hein. Vous avez fait une demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté votre demande. Vous faites appel?
Oui.
On va en parler bien sûr juste après le flash. Vous allez nous expliquer quelles sont toutes les difficultés que vous vivez. Également, on va en parler avec la CIMAD. Vous restez avec nous, Violaine Husson, également dans le studio, Jane Friedman, et puis vous, Nathalie. Comment les femmes migrantes sont-elles protégées lorsqu'elles ont quitté leur pays? Quelles mesures d'urgence aussi, vous, les spécialistes des migrations des femmes, vous réclamez. On en parle juste après le flash dans un peu plus de 3 minutes et vous nous appelez au 33 hein, 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons des femmes migrantes aujourd'hui sur RFI. Sont-elles victimes de la double peine, migrantes et exilées? Elles rencontrent en tout cas des situations complexes, difficiles, où s'imbrique l'oppression subie en tant que personne étrangère, mais aussi en tant que femme. Est-ce qu'on peut pour autant parler de la double peine? On en discute avec vous, Jane Friedman, sociologue, spécialiste des migrations à l'Université Paris 8, et Violaine Husson, vous êtes chargée des questions de femmes migrantes à la CIMAD, l'association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et Matali Koulibaly, vous nous racontiez votre histoire juste avant le flash. Vous êtes une jeune femme ivoirienne, vous avez été victime d'un mariage forcé en Côte d'Ivoire. Vous aviez 26 ans à l'époque, vous avez un petit peu plus de 26 ans, vous avez presque 28 ans, c'est ça, aujourd'hui, avec un mari violent qui non seulement vous a violé puisque vous n'étiez pas d'accord avec avec ce mariage, ce sont vos parents qui l'ont décidé, tout comme pour vos sœurs d'ailleurs, et puis il vous a également menacé d'excision, car par chance vous n'aviez pas été excisé, épargné à la demande de votre maman, parce que vous nous disiez avant le flash que votre, pour une de vos sœurs, il y avait eu de graves complications médicales. Vous avez donc fait une demande d'asile en arrivant en France, auprès de l'OFPRA. Comment vous avez été aidée, conseillée, etc. en arrivant en France?
Je dirais merci d'abord à la CIMAD, à Madame Police Mich, qui m'a beaucoup aidée par rapport à mes démarches pour l'asile. Mmh. En fait, pour demander l'asile, je dirais que c'est un parcours, c'est pas facile. C'est très, très difficile. Avant même de déposer les dossiers, on vous demande plusieurs documents à fournir. Et après avoir déposé le dossier, vous êtes convoqué à l'OFRA. Mmh. Et après la convocation de l'OFRA, vous êtes reçu par peut-être une à deux personnes pour expliquer un peu votre histoire.
Voilà. C'est les questions qui vous sont posées sont difficiles à vivre pour vous?
Très difficiles. Ils voudraient bien que on peut pas. En fait, nous sommes des femmes qui avons vécu des difficultés, des trucs qu'on ne peut pas tellement tout raconter. L'OFRA voudrait que on rentre souvent en profondeur, mais c'est difficile pour nous. Et ils se basent sur cela dans les résultats, disant que nous n'avons pas été concret, nous n'avons pas tout dit, on peut pas tout dire en fait.
C'est parce ça, que plus vous êtes pudique finalement, moins votre dossier est épais, moins il est étayé, moins vous avez de chances d'obtenir l'asile.
Oui.
C'est ça qui est terrible pour
vous.
Oui,
c'est terrible, très terrible.
Parce que cette pudeur-là, vous en avez besoin.
Ils ne peuvent pas nous comprendre, parce que c'est nous qui avons vécu cette histoire-là. Nous allons les raconter, certes, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que nous avions vécu.
Violaine Husson, à la CIMAD, comment vous travaillez justement pour aider à monter les dossiers à l'OFPRA, sachant qu'aujourd'hui on a un afflux de de demandeurs d'asile qui demandent à obtenir un statut de réfugié, qui viennent de pays en conflit. Comment ça se passe lorsqu'une jeune femme ivoirienne venant d'un pays en paix fait une demande d'asile à l'OFPRA?
Alors du coup, dans le cadre des femmes migrantes, et d'ailleurs des hommes migrants également, on distingue deux choses. Il y a des personnes qui viennent demander des cartes de séjour, donc c'est une toute autre procédure, et puis des personnes qui fuient une persécution dans leur pays d'origine et qui vont demander une protection en Europe, et là notamment pour le cas de Matali en France. Et du coup, il y a quand même des choses à prendre en considération, c'est plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une crainte de persécution ou une persécution qui vous soit personnelle et actuelle. C'est pas une persécution qui arrive à votre voisin, c'est pas une persécution qui date d'il y a 15 ans. Il faut qu'elle soit toujours actuelle ou que ce soit une crainte. Il n'y a pas forcément l'acte qui a été commis. Il faut que ce soit lié, enfin qu'il y ait que ça relève de la Convention de Genève. C'est le texte qui dit qui est réfugié ou pas. Il y a 5 motifs. Celui qui est le plus connu, c'est les opinions politiques. Mais il y a également les questions de race. En fait, maintenant, on parle plutôt d'ethnie, de nationalité, de religion. donc les opinions politiques, je l'ai déjà dit, et puis l'appartenance à un certain groupe social qui n'existe pas, il n'y a pas de définition en tant que telle dans la Convention de Genève. Donc voilà, il faut que ce soit un de ces cinq motifs de la Convention de Genève, et ensuite, il faut arriver à prouver que les autorités étatiques de votre pays ne soient pas en mesure de vous protéger efficacement. Donc ça signifie pour des associations comme la CIMAD d'accompagner les personnes qui demandent l'asile à pouvoir répondre à ces différentes critères, à ces différents éléments, et donc de pouvoir préparer un entretien et de préparer également la personne à raconter son récit devant un officier de protection qui n'est pas toujours formé sur les questions des violences. Et la question des violences dans le cadre de la sphère familiale, ça relève généralement du critère du motif de l'appartenance à un certain groupe social qui, encore une fois, n'est pas défini dans la Convention de Genève. Et du coup, ça va être des décisions qui sont rendues par des instances, des autorités françaises, en fait, soit la Cour nationale de droit d'asile, soit le Conseil d'État, qui va créer des groupes sociaux. Et la difficulté qu'il y a, comme dans le cas de Matali, c'est que...
La demande a été rejetée, en tout cas, oui, là, en première instance,
tout à fait.
Vous faites appel.
Tout à fait. Et du coup, la difficulté qu'il y a, c'est d'arriver à prouver qu'on a vécu ou qu'on craint une persécution. Donc là, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir vécu un mariage forcé, qui est considéré comme une persécution, ou le fait d'avoir réussi à se soustraire à une excision, qui est aussi une persécution. Les mutilations sexuelles féminines sont des persécutions. Mais du coup, généralement...
Mais là, l'OFPRA répond, en fait, c'est du domaine de la vie privée.
Exactement. Hein, généralement...
Ça n'est pas lié au fonctionnement d'un pays. Ça n'est pas une persécution liée au pays lui-même, c'est cela ?
Tout à fait. En disant, voilà, ça relève de la sphère privée, c'est un conflit familial et donc du coup on n'a pas appliqué à la Convention de Genève. Mais généralement dans ces situations-là quand même les officiers de protection mettent en avant le fait qu'il y a quand même un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans le pays d'origine et du coup accordent de manière subsidiaire ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Donc on n'est pas sur un statut de réfugié mais on a quand même une petite protection. Alors c'est pas systématique parce qu'effectivement il faut arriver à prouver le fait de cette crainte de persécution et qu'on n'est pas en mesure d'être protégé par les autorités. Donc Matali par exemple l'expliquait qu'elle avait porté plainte et que cette plainte là même
dans
si elle
son
était
pays
enregistrée
d'origine, hein.
Exactement. Et que même si cette plainte elle a été enregistrée par les policiers à Abidjan,
son pays n'a pas été en mesure de la protéger, c'est ça en fait, hein, vous essayez de prouver. Du côté de l'OFPRA et des autorités françaises, mais pas seulement, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que accorder le droit d'asile à des femmes qui sont menacées d'excision ou qui sont victimes de mariages forcés dans le cadre de conflits familiaux, est-ce que ça ne risque pas de créer, pour employer la formule consacrée, un appel d'air, Jane Friedman?
Oui, mais c'est un raisonnement, c'est une excuse qui est utilisée par l'OFPRA, mais par des autres autorités dans les autres pays européens. Ils ont peur que si on dit oui, l'excision, le mariage forcé, c'est une persécution, il faut donner une protection sur la Convention de Genève, qu'il y aura des millions de femmes qui vont arriver.
Ils auront tout l'Afrique en France.
Mais quand on voit en fait la décision de venir en Europe, la décision de migrer, de laisser son pays, c'est une décision très très difficile. Et les gens, les femmes, elles ne vont pas toutes venir ici par millions pour demander l'asile. Donc je pense que c'est un faux argument, mais c'est un argument qui est souvent utilisé pour essayer de restreindre le droit d'asile et d'interpréter la Convention de Genève dans une façon très restrictive pour qu'il y ait très peu de cas de ce type qui vont entrer dans la Convention et puis très peu de gens qui vont être protégés et qui vont avoir un statut de réfugié.
Est-ce que, Matali, si vous n'aviez pas été victime d'un mariage forcé, vous auriez imaginé rêver d'aller en France?
Même pas. J'en souffre beaucoup parce que même j'ai même laissé ma fille de 8 ans là-bas. Donc j'allais même pas venir. C'était même pas dans mes projets.
Oui, que vous aviez eu d'une précédente union.
Oui.
Ouais. Et vous aviez envie de rester vivre en Côte d'Ivoire pour élever votre fille, en fait, hein, tout simplement. Est-ce que la réforme du droit d'asile de cet été, Violaine Husson, accorde davantage d'importance à la condition féminine aujourd'hui dans les demandes d'asile?
En fait, une des avancées de cette nouvelle loi de juillet 2015, c'est d'avoir transposé en droit français des directives européennes. Donc, c'est pas forcément une volonté politique française, hein, mais bien une obligation de transposer des directives, et notamment de prendre en considération les persécutions liées au genre dans les demandes d'asile sous l'angle de cette appartenance au groupe social dont je vous parlais tout à l'heure. C'est encore trop tôt pour voir les évolutions suite à cette nouvelle loi. Il n'empêche qu'il faut également s'y arriver à changer les mentalités, parce que la difficulté qu'il y a, c'est d'arriver à convaincre un officier de protection qu'on n'a pas tout le temps les éléments de preuve. Et que du coup, il faut arriver à bien préparer l'entretien à l'OFPRA. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, la difficulté, c'est d'arriver à rentrer dans les détails les plus importants pour pouvoir arriver à convaincre cet officier du fait qu'on a besoin d'être protégé en France.
En fait, il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui, sur cette question, qui est très intéressante, qui montre que pour les femmes, c'est ça qui est le plus difficile, c'est avoir des éléments de preuve, surtout quand il faut parler des questions.
Parce qu'en fait, à chaque fois, quand on parle de femmes vulnérables sur les routes des migrations, il s'agit de violences sexuelles. On ne va pas tourner autour du pot, c'est presque
oui,
toujours
c'est
ça.
Oui, c'est très souvent, et c'est des violences dont les femmes ne veulent pas en parler, ou pas parler dans les détails. C'est aussi difficile d'amener des preuves matérielles de fait qu'on a subi ce type de violence. Donc, pour demander l'asile, je pense que c'est très compliqué d'avoir... Et quand il y a une suspicion toujours que la personne est en train de mentir et qu'on veut des preuves... Ça met la personne qui demande l'asile dans une situation très difficile.
Alors aujourd'hui, quelles mesures de protection pour les femmes migrantes, hein? Que demandez-vous, vous, en tant qu'association ou militante pour les droits des femmes, notamment victimes de violences sur les routes des migrations? On en parle tout de suite.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Quelles mesures de protection pour les femmes migrantes, vous, justement, à la CIMAT, qu'est-ce que vous demandez? Sans cesse, on voit bien qu'il y a des manques de places d'hébergement pour les femmes, un problème de mixité aussi. Vous nous expliquiez, Jane Friedman, que c'est du fait que ces femmes sont hébergées de manière mixte, qui crée aussi des violences entre migrants, hein, d'ailleurs, et pas seulement les pressions venues des passeurs, etc. Vous, pour vous, quelles sont les priorités?
Pour pouvoir être accompagné dans une demande d'asile, il faut d'abord poser ses valises, notamment quand la route a été longue, pour pouvoir réussir à reconstruire son récit de vie de manière chronologique, géographique, etc. Toute personne victime de violence, d'ailleurs française ou étrangère, hein, a besoin de poser ses valises pour pouvoir ensuite prendre le temps de raconter son histoire et ce qui lui est arrivé. La difficulté qu'il y a, effectivement, c'est qu'il manque des places d'hébergement, que c'est une bonne chose. Il y a des priorités qui sont données aux femmes qui sont avec des enfants pour pouvoir avoir des places, mais il y a aussi beaucoup de femmes isolées et qui se retrouvent souvent sans être prioritaires pour pouvoir obtenir des places et qui se retrouvent au 115. Et quand il n'y a pas de place au 115, et ça arrive encore...
SAMU social.
Exactement, au SAMU social, quand il n'y a pas de place, du coup, certaines d'entre elles dorment dehors ou se retrouvent à essayer de négocier une place chez quelqu'un dans sa communauté ou chez un marchand de sommeil, etc., qui les met également dans des situations de vulnérabilité et du coup, souvent de grande précarité et de violence.
Est-ce qu'à Calais, la situation est particulièrement dramatique pour les femmes,
hein? À Calais, la situation est vraiment dramatique. Et on a vu, il y a des situations de violence. Bon, pour tous les réfugiés à Calais, c'est dramatique pour les femmes. Il y a des problèmes de prostitution, parce que quand les femmes vivent comme ça dans des situations de précarité, elles sont vulnérables à la violence sexuelle. Aussi, si elles n'ont pas de ressources, elles vont échanger les rapports sexuels contre de la nourriture.
Mais concrètement, il y a des places qui sont réservées pour les femmes au centre Jules Ferry à Calais, mais en nombre insuffisant.
C'est ça, je crois qu'il y a
300
places.
Oui, il y a pas assez de
places. J'ai lu 200, moi.
Oui, en fait, ils ont essayé parce qu'ils ont vu des problèmes, ils ont essayé de créer des places, mais il n'y a pas assez de places. Donc, la situation, je pense, c'est juste terrible pour les femmes sur
place. Il y a des règles très strictes, vous avez 8 minutes pour prendre une douche, tout est sous clé. Du coup, il y a aussi une manière de vivre qui peut être aussi un petit peu compliquée, et beaucoup de femmes restent dans la jungle.
Mais aujourd'hui, est-ce que les mesures, les politiques européennes de migration, etc., et tout ce qu'on a vu, notamment par rapport aux demandes de droits d'asile pour les réfugiés arrivés en masse, est-ce que la situation particulière, la double peine, est-ce que c'est d'ailleurs l'expression que vous choisiriez, Jane Friedman, est suffisamment prise en compte par les États?
Je pense pas que les États prennent en compte vraiment la situation des femmes et les vulnérabilités spécifiques des femmes. On parle de la vulnérabilité qu'il faut prendre en charge des personnes vulnérables. Mais en fait, du coup, les politiques européennes qui sont restrictives forcent ces personnes à prendre des routes difficiles, à utiliser pas ça, à dormir dans des, il y a pas de, d'accueil suffisant. Donc tout ça met des femmes dans des positions d'insécurité. Et les autorités européennes, ils répondent pas à ces problèmes-là, pas du tout.
Mais par exemple, il y a eu des mesures, des tentatives, en tout cas, de mesures prises pour lutter contre les passeurs.
Oui, mais ça suffit pas en fait. Il faut les passeurs, ils sont là parce qu'il n'y a pas d'autre route légale pour arriver en Europe. Donc pour lutter contre les passeurs, il faut ouvrir des routes légales et sûres pour l'arrivée en Europe. On a vu la politique hotspot qu'ils ont lancée, mais ça se passe très mal parce que c'est pas organisé. Par exemple, en Grèce, c'est sur l'île de Lesbos où ils ont mis un hotspot et c'est juste. Et pour les autres spots, bon, l'idée, c'est de trier, pour prendre les dossiers, pour essayer de mettre les réfugiés dans des pays d'accueil, sûrs. Mais il faut sur place, il faut un système d'enregistrement, il faut un système de logement et d'accueil pour les gens qui restent sur place en attendant, une place, en Europe. Et ça se passe pas comme ça. Donc, c'est encore la bagarre, c'est les violences. Et on en voit des rapports de ce qui se passe là-bas qui, en fait, ça empire, la violence parce que les personnes sont, ces personnes-là, ils sont tellement désespérés, ils veulent arriver en Europe. Donc, il faut, c'est pas bien géré.
Mathali, vous, qu'est-ce qui vous a le plus aidé quand vous êtes arrivée en France?
Je dirais que j'ai beaucoup galéré. J'ai même dormi dehors souvent. Je suis arrivée en avril, le 2 avril, et c'est en mai que j'ai été hébergée grâce à la CIMAD, par Madame Pauline, qui m'a amenée dans une association appelée Espace Solidarité, qui est à Montreuil. C'est ce même jour, en mai, que j'ai été logée jusqu'à présent dans un hôtel.
Ça veut dire que finalement, même en ayant quitté le pays où vous étiez victime de violence, hein, dans votre famille, vous n'étiez pas en sécurité en France, en tant que femme.
Quand je suis arrivée en France, je pensais venir trouver, comment on fait ça, un autre départ de ma vie. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée confrontée à des difficultés de papier d'abord, d'hébergement. C'est très, très difficile. Très, très difficile.
Vous, à la CIMAD, Violaine Husson, qu'est-ce que vous demandez prioritairement aujourd'hui pour les demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent d'ailleurs?
Ah, la première chose, c'est des conditions d'accueil dignes, en préfecture, tout d'abord, pour avoir une place d'hébergement. On a beaucoup de difficultés. En fait, le critère pour pouvoir obtenir des places, mais même au 115, où c'est pas un critère en principe, c'est un titre de séjour, c'est marqué nulle part. On se retrouve même parfois confronté à des situations où même les colis alimentaires sont conditionnés à des titres de séjour. Donc, même ce qui existe au niveau de la solidarité, de la société civile, est conditionné par un bout de papier. Bon, ça, c'est plus possible dans ces situations-là.
Pour revenir aux demandeurs d'asile qui viennent de pays en conflit, il y a quelques années, il y avait un commandant des forces armées des Nations Unies en République démocratique du Congo qui disait que finalement, dans les conflits modernes, il est plus dangereux d'être une femme que d'être un soldat. Vous partagez cette analyse, Jane Friedman?
C'est vrai que... Je sais pas si c'est plus dangereux, mais c'est vrai que ce type de conflit, en fait, c'est pas un conflit juste entre les armées, c'est un conflit qui touche les civils, parce qu'il y a beaucoup d'actions en République démocratique du Congo. On sait qu'il y a des régions où les populations civiles sont vraiment les plus touchées, les plus victimes de violences. Et ça, pour les femmes,
ça
s'applique à la Syrie. Bon, on a des rapports sur la Syrie qui montrent aussi comment les femmes ont été victimes de violences sexuelles et les femmes qui sont civiles, qui sont pas impliquées dans les crises et sont victimes. Et les femmes syriennes que j'ai rencontrées cet été, elles ont été victimes de violences de la part, à la fois de Daesh et aussi des bombardements du gouvernement d'Assad. Donc, c'est vraiment, je pense que ces populations sont touchées de tous les côtés et elles n'ont pas d'autre choix, des fois, que de fuir. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
Merci en tout cas à toutes les trois d'être venues dans l'émission. Mathali, merci à vous d'être venue témoigner au nom de toutes les femmes qui ont dû quitter leur pays en raison de menaces et de violences. Merci d'avoir eu le courage de venir en direct chez 7 milliards de voisins. Évidemment, on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos demandes d'asile. Jane Friedman de l'Université Paris 8 et Violaine Husson de la CIMAD. Vous voulez bien rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission ? Dans quelques instants, nous parlons des mariages précoces en Afrique. L'UNICEF, vous le savez peut-être, vient de sortir un rapport sur le sujet.
J'ai vendu mon bateau, ici il n'y a plus de poissons. Et j'ai vendu mon âme, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vendu ma femme, mon amour, mes enfants, pour ne pas mourir à mon tour. Où aller, où aller, où aller, je ne sais pas. Dormi sans étoiles, ici le ciel est noir. Et j'ai volé du pain, la terre était trop sèche. C'est du sang qu'elle boit et nos bras qu'elle mange. C'est la faute à qui si je suis hors la loi. Où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas.
Vous avez reconnu un de vos compatriotes, Magali, c'est Tiken Jaffa Coli. Où elle est où ? Le nombre de mariages précoces en Afrique pourrait exploser dans les années à venir sur le continent. C'est ce que révèle un rapport qui vient d'être publié par l'UNICEF. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Laurent Duvillers, de Villers au bureau régional de l'UNICEF à Dakar. Bonjour Laurent Duvillers.
Oui, bonjour.
Pour la première fois, finalement, avec cette étude, vous regardez les statistiques en fonction des continents. C'est bien cela concernant les mariages précoces, les mariages des enfants ?
Oui, c'est la première fois qu'on a regardé aux données statistiques d'un point de vue continental pour l'Afrique. En utilisant l'occasion du sommet panafricain de l'Union africaine sur le mariage précoce qui a eu lieu à Lusaka la semaine dernière, pour regarder comment les données dans ces 25 dernières années ont progressé, le taux du mariage précoce, mais aussi regarder aux 35 prochaines années comment le phénomène augmentera si les tendances continuent.
Ça veut dire que dans les années à venir, le mariage précoce sera avant tout un phénomène africain ?
Exactement. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Le taux de mariage précoce en Afrique, sur le continent, mais également dans les autres parties du monde, est en chute, est en déclin. Mais cette baisse est moins significative, elle est plus lente en Afrique comparativement à d'autres régions comme l'Asie du Sud par exemple. Et quand on couple ce phénomène de réduction, mais réduction lente, couplé à une croissance démographique en Afrique qui elle est très rapide, ça veut dire concrètement que d'ici 2050, le nombre total de jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique va exploser, il va plus que doubler pour atteindre 310 millions de jeunes filles africaines mariées avant l'âge de 18 ans.
Et parfois de manière très précoce, hein, parfois bien avant 18 ans, il faut le préciser.
Tout à fait, à l'âge parfois de 10, 11, 12, 13 ans.
Tous les pays africains sont concernés, c'est pas lié à la religion par exemple ?
Non, non, loin de là. Et c'est souvent un stéréotype qu'on a, c'est de penser que c'est lié à une religion ou à une pratique ou une autre. On se rend compte que tous les pays sur le continent sont affectés par ce phénomène, de l'Afrique du Nord à l'Afrique australe, en passant par l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Centre, des pays aussi variés que le Mozambique, le Niger, la RDC par exemple. Donc vraiment, que ce soit des pays catholiques, des pays musulmans, des pays animistes, tous sont affectés par ce phénomène, mais les progrès sont plus nets dans certains pays, notamment l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, où les progrès accomplis ont été plus importants.
Alors justement, quelles sont les pistes de progrès pour toucher ces jeunes filles mariées alors qu'elles sont encore des enfants, qui sont d'ailleurs souvent dans des zones rurales et qui vont peu à l'école ? C'est aussi soit parce qu'elles ne vont pas à l'école qu'elles sont mariées jeunes, ou en tout cas c'est à cause de leur mariage qu'elles sortent du système scolaire.
Tout à fait, c'est possible. Alors, on se rend compte que les données nous révèlent que les couches de la population qui sont les plus affectées, là où les jeunes filles sont le plus à risque, ce sont les familles les plus pauvres et dans le milieu rural. Une jeune fille dans une famille pauvre dans le monde rural a deux fois plus de probabilité d'être mariée avant l'âge de 18 ans qu'une fille dans un milieu urbain et dans une famille riche. Donc, ces données-là, on les utilise parce que ça nous permet vraiment de montrer là où il faut mettre un accent particulier. Alors bien évidemment, les causes, les racines de ce problème sont multiples. Elles sont à la fois économiques, parce que les familles sont pauvres, elles ont beaucoup d'enfants, et donc elles ont des difficultés à pouvoir alimenter, souvenir aux besoins de tous ces enfants, mais elles sont aussi éducatives, elles sont aussi sociales, culturelles. Un des aspects dont on se rend compte, c'est que l'éducation est à la fois en amont et en aval du problème, dans le sens où plus jeune la fille est mariée, au plus elle aura tendance à décrocher scolairement, à ne pas terminer son cursus, mais également la grande piste de solution, c'est d'essayer de la maintenir le plus longtemps possible à l'école et de postposer, de retarder l'âge du mariage dans la durée, de quelques années.
Et comment convaincre les familles, hein?
Alors, il y a différents moyens de les convaincre. Il n'y en a pas un seul, évidemment. L'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies, mais aussi des organisations locales, travaillent beaucoup avec les leaders religieux parce qu'ils ont énormément d'influence sur le comportement, et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est le changement de comportement de ces familles. Mais on se rend compte aussi qu'il faut offrir à ces familles des alternatives, des moyens de pouvoir comprendre qu'ils ont plus d'intérêt à laisser leur jeune fille plus longtemps à l'école et à retarder l'âge du mariage. Et ça passe par quoi notamment? Par des programmes de transfert financier à des familles pauvres pour encourager la rétention scolaire, encourager les familles à laisser plus longtemps leur fille à l'école, un appui par exemple en matériel scolaire, très clairement ciblant les familles les plus pauvres.
En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que le nombre d'enfants mariés en Afrique pourrait plus que doubler d'ici 2050, important à 310 millions le nombre d'enfants mariés. Merci beaucoup Laurent De Villers de l'UNICEF Dakar. J'espère que on aura l'occasion d'en discuter plus longuement avec vous très prochainement, de parler notamment des pays qui ont vraiment déclaré un vrai combat contre les mariages précoces, parce que c'est un vrai problème pour le développement du continent. Rapport à consulter en ligne sur le site, le lien est sur notre site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins et sur Facebook. Merci beaucoup Laurent De Villers. Merci à vous Mathalie, Violaine Husson de la CIMAD, Jane Friedman, l'Université Paris 8, et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Sandrine Strara. Pour toutes vos réactions, vous pouvez bien sûr nous écrire à 7 milliards@rfi.fr.